Alors, il était une fois dans la région du Bandundu, au Congo belge. La tradition orale ne dit pas s'il s'agissait d'un administrateur, d'un commerçant ou d'un simple agent de l'administration belge, et qui, pour des raisons qu'on peut reconstituer facilement, se trouvait isolé. D'abord parce qu'à cette époque, on laissait sa femme, sa famille en Europe, parce que seuls les hommes, chez les Européens, étaient capables d'affronter le climat. Et il a dû arriver qu'un soir, pour des raisons qu'on ignore et puis peu importe, il a eu besoin de compagnie. Et il s'est fait apporter une femme de cette région, une jeune fille. Il en est né un petit garçon et qui est resté avec sa mère quand ce monsieur est reparti en Belgique. Quelques années plus tard, un autre Belge se présente et dit qu'il vient au nom du premier, qu'il vient chercher ce fils. Et la mère assiste aux négociations au travers d'un interprète, on lui donne tout le trousseau pour l'enfant, et on lui donne une compensation, et on lui dit de ne pas s'inquiéter, cet enfant va être emmené en Belgique et éduqué là-bas. La mère fait semblant de croire et d'accepter, elle prend tout et la nuit, elle disparaît dans les régions les plus inconnues de cette province. Une dizaine d'années plus tard, ou 5 ans plus tard, à des variantes près, la même histoire se produit alors, mais au Moyen Congo, colonie française. Et de la même situation vont naître 2 filles. Je passe sur le reste de l'histoire. C'était pour vous expliquer que moi, je suis le produit de cette union. Revenons maintenant aux choses sérieuses. À l'origine, vous le savez, le mot « métis » désignait exclusivement des individus nés du croisement d'individus de race blanche, généralement des mâles, et avec des individus d'origine amérindienne, généralement féminine. L'ITRE précise, on dit mulâtre quand il s'agit d'un blanc et d'une négresse, ou d'un nègre et d'une blanche. En Afrique francophone, pourtant, c'est le terme métis qui a prévalu. J'observe au passage qu'aux Antilles françaises, jusqu'à une date récente, le terme métis n'était guère utilisé. Et qu'on entendait par mulâtre des individus de sang mêlé, d'ascendance noire, mais au trait physique européen. Le mulâtre chez les Antillais est le plus clair des métis, celui qui a des cheveux lisses et un physique d'Européen. Tout est donc question de sémantique, question de contexte et de convention. Dans mon cas, je vous propose d'utiliser indifféremment les mots métis et mulâtre. Je dois ajouter que dans la génération de mes parents, en Afrique, tout au moins sur les deux Congos, le mot mulâtre, sans doute à cause du âtre final, avait quelque chose de méprisable. Et c'est quand un métis était considéré comme de moralité douteuse qu'on l'appelait mulâtre. Dans ce que je vais dire, je suis désolé de décevoir ceux qui viennent entendre une étude historique. Je ne procéderai pas non plus à une analyse anthropologique ou sociologique du métissage. Je ne suis pas un chercheur. Catherine Clément a pris le risque d'inviter quelqu'un qui vous donnera une approche personnelle, une vision de l'intérieur, passée peut-être au tamis d'une sensibilité littéraire. Il s'agira avant tout du métissage vu par un métis. Un métis qui parle du métissage est généralement suspect de nourrir des fantasmes hors de saison, d'être un complexé. Pour certains, le métis n'existe pas. Il s'agit simplement de choisir sa famille, sinon son camp. On est africain, donc noir, ou européen, donc blanc. La couleur de la peau serait un détail auquel il ne faudrait pas s'arrêter. Le problème est justement qu'ordinairement, on ne choisit pas sa famille. Et le métis a l'impression qu'il lui faut choisir. Au fond, c'est le regard de l'autre qui vous rappelle que vous n'êtes pas typique, que quelque chose dans votre apparence et dans votre identité vous distingue de la communauté dont vous vous réclamez. Lorsqu'un métis se déclare africain, d'Afrique noire, les yeux s'écarquillent. Ce n'est pas son environnement naturel. On conçoit bien qu'un métis représente les Antilles, les îles de l'océan Indien, se fasse passer pour un arabe ou un indien, mais pas pour un africain. Il ne s'agit là pas d'une réaction propre aux regards étrangers, mais une attitude qu'on trouve également chez ses propres concitoyens africains. Le romancier guinéen William Sassine aurait dit qu'il répugnait à se présenter comme métis. Et pourtant, un jour, il confia qu'on lui avait, hélas, souvent fait sentir sa différence. Ce regard de l'autre, il m'est arrivé non seulement de le sentir, mais de me mettre dans le regard de l'autre et de me trouver dans la situation du regardons. Un jour, autre histoire après la première, je me trouvais dans un avion à destination des États-Unis. Je crois que c'était pendant la période de la première guerre d'Irak. Les avions étaient presque vides. Et j'avais à côté de moi quelqu'un qui me dit, à un certain moment, il a vu mon nom. Il me dit, ah, vous êtes brésilien. Alors je lui dis non. Il me dit, vous êtes portugais. J'ai dit non plus. Ah, il dit, ah bon? Je lui dis, je vous donne encore deux possibilités, après je vous coupe la tête. Et je ne lui dis pas d'où je viens. Je détourne la conversation. On nous apporte les plateaux pour déjeuner et j'aperçois son nom. Je ne m'en souviens plus aujourd'hui, mais c'était quelque chose disons, Videra ou Martins, etc. Je dis, ah, c'est vous qui êtes brésilien. Il me dit, non. J'ai dit, vous êtes portugais, alors? Non plus. Alors, j'ai dit, alors, faisons la paix, dites-moi d'où vous venez. Et il me dit, je suis mozambicain. Il était blanc. Ah, je dis, moi, je suis congolais. Alors, lui aussi me regarde. Alors, c'était deux métis qui, au fond d'eux-mêmes, acceptaient mal que des gens à la peau aussi claire soient africains. Quand et comment apparaissent les métis en Afrique noire? Je viens de raconter l'histoire de ma famille. Si j'ai pas été assez explicite, je vous donnerai d'autres détails. Une société fermée ou qui se définit par l'exclusion, j'entends par là certaines sociétés qui effectivement, prenons par exemple le cas des Basques, qui se définissent par le nombre de générations à laquelle on appartient, ou, j'espère ne froisser personne, les sociétés asiatiques, qui sont des sociétés assez fermées et, je dirais, exclusives, n'ont pas de métis. Vous me comprenez, je sais bien qu'il en existe, mais ce sont des êtres invisibles ou bien considérés comme insolites. Le métissage suppose la rencontre de deux peuples. Ainsi, les conquêtes d'Alexandre, c'est l'exemple qu'on donne souvent, ont emmené un métissage dans la société perse. Les découvertes des Amériques, puis la traite, ont métissé les Amériques et les îles de la Caraïbe. La France a commencé à se métisser au XXe siècle. D'abord d'une manière invisible avec des Européens, des Italiens, des Polonais qui étaient venus dans l'industrie minière, des Italiens et des Espagnols qui fuyaient la dictature. Et c'est à partir des années 60 surtout qu'avec l'embauche des travailleurs d'origine africaine de manière plus importante et le phénomène du regroupement familial qui est autorisé, je vous le rappelle, en 78, qu'apparaît un métissage génétique visible. Tel n'est pas le cas du métissage africain dont je vous ai parlé au début. Le métissage africain, au départ, est le produit de l'histoire coloniale. Le colon ou le fonctionnaire de l'administration coloniale arrive et se choisit une concubine qu'il appelle ménagère dans la population indigène. Sa période d'affectation terminée, il s'en retourne en métropole ou est nommé dans une autre colonie. Il abandonne sa compagne et sa progéniture. Le métissage se produit donc dans un climat de domination, de mépris, voire de violence, caractéristique de la société coloniale. C'est un acte douloureux, d'où sont issus des êtres marqués du sceau de l'illégitimité. Illégitimité vis-à-vis du monde colonisant, illégitimité à l'égard des familles maternelles. Ils sont reconnaissables dans leur paysage, à leur peau et à leurs traits. Ils ne peuvent se fondre dans l'anonymat de la société. Ce sont pour les uns des petits blancs, donc des fils d'oppresseurs, pour les autres des mal blanchis, au mieux des affranchis marqués du sceau indélébile de leur origine. D'ailleurs, au Congo, l'une des insultes à l'égard des métis, c'est Mundele Kwanga. Mundele, c'est le blanc, Kwanga, c'est le manioc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous avez l'apparence de blanc, vous vous prenez pour des blancs, mais en fait, vous n'avez pas les moyens ni le statut des blancs, et vous mangez comme nous du manioc. Pourtant, je voudrais souligner que cette Africaine, séduite, abandonnée avec son enfant par un aventurier ou un commandant de passage, commandant au sens colonial du terme, ne se débarrasse jamais de son enfant. On ne connaît pas de cas où il y a eu des métis abandonnés. Jusqu'à une date récente, l'Afrique n'abandonnait jamais ses enfants et il n'existe pas non plus de métis sans famille. La communauté maternelle accueille systématiquement ses enfants malgré leur peau café au lait. La femme abandonnée est même épousée par un homme qui adopte sans tergiverser le rejeton du blanc et l'élève comme son propre enfant. En ce sens, la société indigène fait preuve d'une plus grande ouverture d'esprit que la société coloniale. Mais les choses n'en restaient pas là. Venait un moment où l'administration coloniale arrachait les enfants métis à leur mère et les plaçait dans des orphelinats. Pour les garçons, on appelait ça des orphelinats, et pour des filles, des couvents, entre guillemets. Ma grand-mère paternelle au Congo belge et ma grand-mère maternelle au Moyen-Congo, je vous l'ai dit, se sont enfuis en brousse avec leur enfant, qu'elles ne voulaient abandonner pour rien au monde. Mais l'administration coloniale, répondant à des directives, ne restait pas inactive. Il fallait retrouver ces petits métis et on se lançait à leur poursuite. J'ai retrouvé un rapport du lieutenant-gouverneur du Moyen-Congo qui date du 3 septembre 1918 et qui était adressé au gouverneur général de l'AEF à Brazzaville. Et c'est un rapport sur la situation métisse de la colonie. Ça m'a d'ailleurs amusé parce que j'y ai retrouvé le nom de ma mère, de ma tante, de gens que j'ai connus, que j'appelais tantine. Et que dit ce rapport? Il donne la situation dans laquelle se trouvent les enfants. Et dans 90 cas, dans la 90% des cas, l'observation est que ce sont des enfants qui sont bien nourris, bien traités. Pourtant, on les prendra quand même à leur mère. Les garçons, dans le cas du Congo que je connais moins mal que les autres pays, ce sera le centre Saint-Firmin et pour les filles, le couvent Javoué. Alors les enfants y reçoivent une éducation élémentaire française, on leur apprend à écrire, à lire, à compter, pas beaucoup plus. Pour les filles, on leur apprend la couture, la cuisine, et on donne aux garçons un vernis leur permettant de devenir des agents subalternes de l'administration coloniale. On leur fait sentir qu'ils ne sont pas blancs, mais on leur inculque aussi un mépris du noir et de leurs coutumes, d'où le rêve de certains d'aller en France retrouver leurs géniteurs. En 1938, un décret du ministère des colonies attribue la citoyenneté française à une centaine de métis de l'Afrique équatoriale française. Mais c'était du donnant-donnant. Nous vous accordons la nationalité française, parce qu'il faut dire que la plupart de ces métis portaient le nom de leur père. Et dans la plupart des cas, on savait quand ils étaient nés, à quelle date. Et alors, sur les papiers qu'on va donner à ceux à qui on accorde la nationalité française, le nom du père disparaîtra. On mettra « né de père inconnu », alors que le père est connu. Mieux, ses enfants porteront le nom de leur père, mais à condition qu'ils acceptent de changer l'orthographe. C'est assez amusant parce que, vous ne m'en voudrez pas si je parle de moi, c'est à moi de préserver, d'avoir la pudeur de préserver l'histoire de ma famille, mais je pense que je ne la trahis pas en l'étalant sur la place, et puis c'est pas n'importe quelle place. C'est que, dans mon cas, ma mère s'appelle Vulturi. Et toute sa vie, ma mère a pensé qu'elle avait un père corse. Et les recherches que j'ai fait faire récemment montrent qu'il n'avait rien de corse, que le Vulturi s'écrivait O-U-L-T-H-U-R-Y et qu'il était originaire de Saint-Dizier. Donc, pourquoi a-t-on obligé ces nouveaux Français à changer l'orthographe du père? Eh bien, c'est pour les questions de succession. Si vous vous appelez Lopez avec un Z, vous ne pouvez pas hériter de Lopez avec un S. Ou il vous faudra beaucoup de mal pour le prouver. Cette douloureuse entrée dans la vie des métis de la première génération en Afrique a été bien mise en lumière, à mon avis, dans un film réalisé par une descendante de Burkinabé, Sarah Bouyin, un film qui s'appelle « L'enfant du blanc ». C'est un film documentaire, une recherche que je vous conseille de voir et qui est extrêmement poignant. L'enfant métis se trouve donc placé en porte-à-faux par rapport au clivage de la société coloniale ségrégationniste, et l'une des solutions à laquelle il aura recours pour résoudre son dilemme et se sentir moins seul sera d'épouser une métisse. Les bonnes sœurs, les bons pères, l'administration coloniale favorisaient d'ailleurs cette tendance. Créer le plus de familles métisses possible. Il semble que, mais j'ai pas pu le vérifier, mais c'était la rumeur dans les milieux métisses, disait que on avait même songé à regrouper tous les métisses et à les mettre dans une ville, ceux d'Afrique centrale. Les uns parlent de Libreville, les autres de Port-Gentil. Donc, l'objectif était de créer une société métisse au statut intermédiaire, et le métisse avait ainsi une double vie. Sur le lieu de travail, il occupe certaines positions, à peu près du niveau du petit blanc, supérieur, parce que sous la colonisation, j'oublie de dire ça, parce que c'est des choses qui sont oubliés aujourd'hui. N'importe quelle personne, prenant un boucher, un garagiste qui allait aux colonies, ne mettait plus sa main dans le cambouis, ne faisait plus tout ce qui était manuel. Quand je suis arrivé à Marseille en 1949, que j'ai regardé les quais de Marseille, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Où sont les Noirs qui, tous les dockers étaient blancs. Donc, le métis, de ce point de vue, avait un statut. Il ne faisait pas le travail manuel qu'on imposait aux indigènes. Et en revanche, il restait attaché toujours au côté maternel en ce qui concerne le lieu d'habitation. Puisqu'il y avait les quartiers blancs et les quartiers indigènes, les métis, pour l'habitation, pour le travail, ils avaient un statut spécial, mais pour le logement, ils devaient habiter le quartier indigène. Et lorsque certains obtenaient, notamment à la faveur de la nationalité française, le droit d'emménager dans les quartiers européens, quelquefois c'était tellement infernal qu'ils revenaient au quartier indigène. Alors, on pourrait dire qu'à partir de là, les métis étaient sur le point de former une tribu. Ce serait une erreur de le penser, parce que les mulâtres n'ont pas en commun une langue spéciale. Ils n'ont même pas de coutume qui leur soit propre. Ils opèrent un syncrétisme de coutume de l'ethnie de leur mère et de celle que leur a transmis la culture coloniale. Alors, bien sûr, la situation des métis a varié suivant les lieux. Je ne parlerai pas de ceux de l'Afrique anglophone, sinon pour observer que le mot métis n'existe pas en anglais, aussi bien en Afrique qu'en anglais d'Afrique qu'en anglais d'Europe. Au Congo belge, les métis n'ont pas constitué un véritable groupe, parce que la ségrégation y était encore plus forte que dans les colonies françaises. Il a bien existé à Léopoldville, dans les années, fin des années 40, début des années 50, un lieu qui s'appelait le Home des mulâtres, home au sens anglais du terme. En fait, c'était une espèce de club ouvert où le nombre de Noirs était aussi important que celui des Métis. Pourquoi ? Eh bien, parce que les Métis étaient des êtres humains et ils avaient, lorsqu'ils aimaient une femme, ils ne regardaient pas à la couleur du peau. Les blanches étaient exclues et les plus nombreuses étaient les femmes qui avaient la couleur de leur mère. Donc, ils se mariaient indifféremment à des métis ou à des noirs. Le gouvernement belge avait par ailleurs, à l'égard des métis, une politique différente de la France. Ils ignoraient cette minorité. C'était pour eux des nègres. Des nègres à la peau un peu plus claire que les autres, mais des nègres. Le métis du Congo belge se sentait plus Mangala, Mukongo, Muluba ou Muyombe que mulâtre. À de très rares exceptions, la ségrégation les a toujours maintenus dans la société indigène. Un autre cas intéressant, c'est celui de l'Angola. Nous sommes ici dans une colonie qui a toutes les caractéristiques de la colonie de peuplement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les colonies de peuplement, le colon des colonies de peuplement a une autre mentalité et se trouve dans une autre situation que celui des colonies d'exploitation. Dans les colonies d'exploitation, c'est les gens qui ressemblent à mes grands-parents et qui étaient affectés, qui partaient, qui revenaient. Tandis que dans la colonie de peuplement, vous oubliez la métropole, vous n'y revenez pas et vous y construisez une ville qui ressemble un peu à celle de la métropole, un peu comme à l'époque grecque, l'essaimage des cités grecques, on partait avec le modèle d'une cité. Lorsque vous allez à Luanda, par exemple, vous trouvez beaucoup de points communs. Enfin, j'y ai pas été il y a longtemps, mais en 75, ce qui m'avait frappé, c'est que Luanda ressemblait aux villes portugaises, avec les toits en tuiles, le même type de maison qui ne tenait pratiquement pas compte même du climat. Le colon de colonie de peuplement, va construire donc sa maison, il va construire ses hôpitaux pour y être soigné, il va construire ses cathédrales, puisque bien souvent il s'agit de nations chrétiennes et catholiques, et il va y construire ses cimetières. Et dans ce cadre-là, la tendance sera à se mélanger à la population et va se développer ce qu'ils appellent les mestizos. Et c'est cette politique qu'on trouve en Angola. Ça variait bien sûr suivant les lieux. Mais le cas typique que citent les Angolais, c'était la ville de Sadabandera, qui aujourd'hui s'appelle Lobito, et qui était considérée comme la plus grande concentration de métis, parce que tous les colons qui étaient là étaient venus sans femmes portugaises. Les Portugais firent des métis des assimilados, de manière presque exclusive, c'est-à-dire ils correspondent à ceux qui connaissent un peu l'histoire coloniale française, à ce que chez nous on appelait les évolués. Les évolués n'étaient pas les métis, c'était les métis et les noirs. C'était ceux qui avaient reçu une certaine éducation importante au départ. Ces évolués qu'on trouvait surtout en Afrique équatoriale française. Donc, ces assimilados, par un retour de boomerang, vont d'abord, j'oublie de dire, auront la possibilité d'aller étudier au Portugal, et c'est parmi eux, c'est là que intervient le retour de boomerang, c'est parmi eux que va se recruter la fine fleur de la direction du mouvement populaire de l'Angola, le MPLA, qui fut le premier à déclencher la lutte armée contre l'occupant portugais. Cette position de leadership des métis à la tête du MPLA aura des conséquences dans la mesure où cela va être exploité par les autres partis qui vont apparaître après, le FLNA et l'UNITA, qui tirons argument de ce détail pour jeter la suspicion sur les dirigeants du MPLA en disant que ce ne sont pas des Angolais authentiques. Dans le détail, il y a bien sûr des nuances. L'un des créateurs de l'UNITA était un métis, sans doute un ancien du MPLA qui avait quitté et qui était sans doute le plus intelligent de tous, Da Cruz. Mais hormis ce cas, les quelques métis qui se sont aventurés dans ces parties ont eu à le regretter. Et je prends le risque, mais je raconte. Les conséquences de cette attitude iront se poursuivant jusqu'à après l'indépendance. En 1979, le premier président de la République d'Angola, Agostinho Neto, meurt d'un cancer du pancréas. Et il s'agit de lui désigner un adjoint, système de parti unique. Or, l'adjoint du MPLA, celui qui était le plus prestigieux, dont l'autorité était la plus grande, c'était un certain Lúcio Lara, et Lúcio Lara était représenté le type de ce qu'aux Antilles on appellerait un mulâtre, cheveux lisses, blancs, etc. Mais engagé de manière exceptionnelle, un homme totalement désintéressé. Donc tout le monde, nous à Brazzaville, qui avions hébergé le MPLA, si on nous avions eu à voter comme la France veut voter pour Obama, eh bien nous aurions voté pour Lara. Grande surprise, ce n'est pas Lara qui prend la tête du MPLA. Et lorsque certains intimes discuteront avec lui, il confiera c'est moi qui ai décidé, parce que je crois que l'Angola n'était pas prête à accepter un dirigeant de la couleur de ma peau. Au Mozambique, même scénario deux fois de suite. Lorsque, en 69, Eduardo Mondlane, le dirigeant et le créateur du Frelimo, est assassiné, son adjoint est Marcelino dos Santos, un métis qui avait fait ses études ici à la Sorbonne. Et Marcelino dos Santos me dira lui aussi qu'il a préféré passer la main, parce qu'il ne pensait pas que sa couleur serait acceptée. Et lorsqu'en 86, mais il reste numéro 2 du mouvement, et lorsqu'en 86, Samora Machel, donc qui a succédé à Mondlane, et à son tour, meurt à son tour dans un accident d'avion, attribué à l'Afrique du Sud, eh bien, Marcelino dos Santos a la même attitude. Alors vous me direz, pauvre métis. Pourtant, je vous dis qu'il ne faut pas tirer conclusion de ces exemples-là. À mon avis, ce sont des attitudes, des analyses personnelles. Pourquoi ? Parce que si vous observez plusieurs pays africains, vous vous rendrez compte que les métis ont non seulement joué un rôle de premier plan dans les institutions et les partis politiques, mais ils ont occupé, ils occupent encore aujourd'hui, certains, la magistrature suprême. Je vais vous donner simplement quelques exemples. Je ne parlerai pas du Cap-Vert et de Sao Tomé-Principe, parce que on pourrait me dire, mais là-bas, la population est métisse. Toutes les populations de ces deux îles sont des métisses, même quand tel a la peau complètement blanche, il a du sang noir, et quand tel autre a la peau complètement noire, il a aussi du sang blanc ou du sang métisse, si ce sang existe. Mais le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, était un métis, élu à la suite d'élections. Son fils, dont on parle beaucoup dans l'actualité et qui dirige un parti au Togo, dont brusquement j'oublie le prénom, Gilles Christ Olympio. Gilles Christ n'est pas contesté à la tête de son parti à cause de la couleur de sa peau ou de ses origines. Jerry Rawlings dirige le Ghana pendant 8 ans après avoir été élu et réélu. Il a dirigé plus longtemps, parce que la première fois, il avait fait un coup d'État. L'actuel président du Ghana, Yann Tseretsekama, est un métis de mère britannique. La présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, est une métisse. Et les déboires que certains métis ont connus en politique ne sont pas dus à leur pigmentation, mais à des raisons politiques. Je voudrais dire un mot sur le cas sud-africain, parce que l'Afrique du Sud est un pays immense, sans égal dans le continent africain, non pas par sa taille, puisque le plus étendu est le Soudan et le plus peuplé l'Égypte, mais en raison de son niveau de développement. L'Afrique du Sud est la première puissance du continent. Et là, les métis constituent une véritable communauté. C'est au Cap que leur nombre est le plus important. Certains qui schématisent les choses disent, je ne pense pas qu'il faille retenir cette différenciation que je vais faire, mais on peut la retenir quand même pour se préciser les choses. Ils disent Johannesburg et Pretoria sont les grandes métropoles noires, Durban la métropole des Indiens et le Cap la métropole des métis. La plupart d'entre eux s'expriment d'ailleurs plus en afrikaans qu'en anglais. Il y existe même un véritable gang des colored. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que le mot colored, qui désigne les métis d'Afrique du Sud, comprend non seulement des individus nés du mélange noir-blanc, mais aussi et surtout des populations apparentées aux métis par leur teint. Colored est un terme anglo-sud-africain qui désigne les populations ni blanches, ni noires, ni asiatiques en Afrique du Sud. On en trouve aussi en Namibie, en Zambie, au Botswana et au Zimbabwe. Il y a différents termes qui sont utilisés en alternance pour désigner ces groupes ethniques et qui sont issus principalement de mélanges interraciaux entre Européens, Khoikhoi, donc des Noirs, mais aussi Indonésiens, Indiens, Malgaches, Mozambicains, Mauriciens. Ils représentent 4,5 millions d'habitants, c'est-à-dire plus que la population de mon petit Congo, et près de 10% de la population sud-africaine. Et dans ce groupe de métis du Cap, il y a aussi les Malais qui sont, tout ça on les met dans les colored. Et ce sont les Malais qui ont été importés au XVIIe et XVIIIe siècle, et certains se sont mélangés aux Européens, d'autres aux Noirs, etc. C'est donc, là encore, un groupe de métis ou de colored particulier. Durant la période d'apartheid en Afrique du Sud, les colored étaient l'un des quatre grands groupes raciaux reconnus aux côtés des Blancs, des Noirs et des Indiens. Ils bénéficiaient de droits spécifiques par rapport aux Noirs, comme certains jobs, et le droit de vote, sauf pendant la période 56-84. Ils constituent la majorité de la population des provinces du Cap Occidental et du Cap du Nord, je l'ai dit. Près de 10% d'entre eux sont anglophones et résident principalement au KwaZulu-Natal et dans la province du Cap Oriental. Mais de nombreux colored réfutent cette classification ethnique et se définissent comme noirs ou juste comme sud-africains. Pour ceux qui s'intéressent concernant la situation des métis, notamment dans la lutte contre l'apartheid, je conseille un roman d'un écrivain sud-africain. Le premier, à mon avis, qui était connu et qui est oublié aujourd'hui, c'est Peter Abrams. Et l'un de ses romans, A Night of Their Own, raconte justement les problèmes entre les différentes communautés dans la clandestinité. Je vous ai dit que je vous parlerai de ce problème avec une sensibilité littéraire, et jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait. Je voudrais signaler que dans le monde littéraire de l'Afrique francophone, la première fois qu'on entend parler des métis, c'est avec le roman du Sénégalais Abdoulaye Sadji, Nini, mulâtresse du Sénégal. C'est un ouvrage sans doute inspiré par le dépit amoureux et qui fait un portrait peu flatteur de ces fameuses signards de Saint-Louis. Nini est une métisse de Saint-Louis, justement. Elle méprise les Noirs et compte sur sa beauté et son teint clair pour pouvoir entrer dans la société blanche en épousant un Européen. Alors elle a des amants successifs, mais ceux-ci ne font que s'amuser d'elle. Et après l'échec d'une dernière aventure dont elle espérait beaucoup, elle vend ses biens, délaisse ses parents, abandonne son métier, elle était sténodactylographe, et part pour l'Europe. Le premier écrivain à célébrer le métissage, c'est évidemment Léopold Sédar Senghor. Pour le poète sénégalais, la négritude n'est pas exclusive, ni, comme on l'a insinué à tort, un racisme à rebours. Senghor reprend à Frobenius l'idée d'une civilisation commune à l'Afrique précoloniale et à Delafosse celle d'une âme noire spécifique. Avec primauté de la connaissance intuitive et de la transémotionnelle sur l'analyse rationnelle. Vous connaissez la formule, la raison est hélène et l'émotion nègre. Aptitude fondamentale au pardon, sensualité, primauté du rythme, spiritualité, communion avec les morts, humour, voilà les traits dominants du nègre singorien authentique. Et l'ensemble de ces valeurs constitue l'apport du nègre au monde, car la négritude ne se veut pas conservatisme figé dans un dogme, mais l'apport à la civilisation universelle, mot qui revient souvent chez Senghor, et qu'il s'agit de réaliser justement par le biais du métissage culturel, dont Senghor se veut l'apôtre. Nous sommes, affirme-t-il, dans un texte, des êtres de la rencontre, gardons-nous de la vivre en étant exclusifs de l'une ou l'autre culture. Senghor a souvent dit, et Catherine Clément l'a entendu avec moi au Conseil de la francophonie, dire que c'était là une idée, un message qui reprenait à son maître Rivet, selon qui les civilisations de la Méditerranée devaient leur fécondité et leur richesse aux nombreux brassages dont elles avaient été l'objet. Mais le métissage qu'évoque Senghor est un métissage des cultures et des civilisations, pas un métissage des individus. Si, comme j'ai essayé de le montrer, les métis ne sont en Afrique l'objet d'aucune discrimination, qu'ils ont été à l'origine accueillis par la non seulement par recueillis par leur mère, mais par la société maternelle dont étaient issus, avec le même statut que les enfants du père adoptif, je pense que le problème existentiel demeure au niveau intime. Le métis sent sur lui le regard de l'autre, comme le noir le sentait hier dans la société européenne, comme l'albinos le sent aujourd'hui encore dans la société africaine. Et on a tendance à revenir à la formule de William Sassine, « on me l'a fait sentir ». Pour les uns, nous ne sommes pas assez noirs, pour les autres, pas assez blancs. Pour échapper à sa situation, le métis, comme tous les nouveaux convertis, ou ceux qui cherchent à se faire accepter d'un groupe, eh bien, font des fuites en avant. Frantz Fanon a étudié l'un de ces comportements dans « Peau noire et masque blanc ». Là, il s'agit de la fuite en avant vers le modèle européen. Vous me direz que Frantz Fanon a étudié le cas de l'Antillais, mais en l'occurrence, son étude est valable pour tous les Noirs. Et j'en ai eu l'expérience en donnant à lire, 30 ans après la parution de l'ouvrage, le livre à mes enfants lorsqu'ils atteignaient l'adolescence, et de tout Frantz Fanon que je leur ai présenté, le seul qui les retenait, c'était Peau noire et masque blanc. Parce qu'ils y retrouvaient sans doute des problèmes qui les agitaient. À mon avis, la psychologie alors de l'autre métis, tribaliste ou anti-blanc, parce qu'il fait, lui, la fuite en avant dans la société africaine, reste à faire. Certains métis ont rêvé d'associations, voire de métropoles de métis. Tout ont échoué. pour de multiples raisons. J'en ai signalé au passage, ils n'ont pas de langue commune. Ils épousent tantôt des blancs, tantôt des blanches, tantôt des noirs. Dès lors, la place du conjoint, quelle sera la place du conjoint ou des enfants ? Vouloir fonder des communautés de métis, pour ces raisons, constitue à mon avis une erreur et une entreprise vouée à l'échec. Une erreur parce que, même si le métis est quelquefois perçu comme un animal étrange dans son propre pays, la société africaine n'a jamais rejeté le métis, ni l'enfant abandonné, ni l'homme politique. Qu'il y ait des colibés quelquefois, reprenons-les avec humour. Au début de mon propos, évoquant les conditions d'apparition du métis sous la colonisation, j'ai dit que la naissance du mulâtre avait été douloureuse. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Les métis d'aujourd'hui, en Afrique ou ailleurs, ne sont plus les enfants de ceux qui chicotaient, méprisaient et humiliaient les Noirs. La plupart d'entre eux même sont des enfants de Noirs, de pères Noirs. Ils portent des patronymes africains, ont des mères françaises, mais pas seulement, russes, bulgares, roumaines. Le regard qu'on porte sur eux et celui qu'ils portent sur leur entourage n'est plus le même. On ne connaît pas de cas de discrimination à leur encontre fondée sur la couleur de leur peau. Aujourd'hui, un métis, s'il a des problèmes d'identité, ce sont des problèmes qui sont du même ordre que peuvent avoir le croisement d'un Italien et d'une Espagnole, par exemple, ou d'un enfant français qui serait né et aurait grandi en Allemagne. Aujourd'hui, on ne le sait pas assez. Moi-même, je l'ai découvert un peu en cherchant ce que je pourrais vous dire, qu'un métis africain pouvait être à la fois un fils de Britannique, de femme britannique, être un chef traditionnel et suprême de la tribu des Bamangwato et démocratiquement élu comme président de la République du Botswana. C'est le cas de Jan Kama Seretse Kama. Alors, et d'autres métis, même vivant en Europe, ont continué à être des chefs traditionnels. Je vois dans la salle la femme d'un de nos compatriotes métis qui est décédé il y a pas très longtemps, qui était président du Sénat dans notre pays, et il me racontait que pendant son exil, de son village Sibiti, on lui envoyait des conflits coutumiers à arbitrer. Et il le faisait sur des cassettes et il les renvoyait et c'était accepté. Et il a eu à ses obsèques des obsèques à la fois occidentales et des obsèques de chef traditionnel. Et cela, il le tenait de sa grand-mère, de sa mère, me disait-il, qui était chef. Vous me corrigerez si je me trompe. Je crois que c'est cela qu'il faut retenir, plus que les fantasmes dont nous sommes habités, à commencer par moi. Paradoxalement, j'ai envie de dire, mais je m'aventure, mais je le fais quand même, que c'est d'Amérique, là où le mot n'existe pas, là où la réalité du métissage est niée ou était niée, que le métis me semble avoir été le mieux défini et situé. Vous l'avez compris, je pense à Barack Obama. Je pense notamment à son discours de Philadelphie, que la plupart d'entre vous doivent connaître. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, je voudrais vous rappeler le passage qui me semble le plus important. Vous vous souvenez, le révérend Wright, un métis très blanc aux yeux bleus, n'est-ce pas, dit des horreurs sur les États-Unis et qu'ils ont mérité la punition des cieux et de Dieu avec le 11 septembre. Et il se trouve que c'est la paroisse que fréquente Barack Obama. Ses ennemis, ses adversaires politiques s'en saisissent et lui demandent explication. Et Barack Obama de répondre. J'ai condamné les paroles du pasteur Wright. Mais ne me demandez pas de condamner le pasteur Wright. Nuance. Parce que le pasteur Wright, c'est lui qui m'a fait retrouver, approfondir ma foi. C'est lui qui a béni mon mariage, c'est lui qui a baptisé mes enfants. De la même façon que ma grand-mère, qui était blanche et qui m'a élevé en faisant des sacrifices et dont je ne peux pas douter de l'amour, lorsque à Hawaï, nous nous promenions dans la rue et qu'elle voyait un noir, elle me disait qu'elle en avait peur. Elle dit, je condamne les paroles de ma grand-mère, mais ne me demandez pas de condamner ma grand-mère. Et alors là, je pense que moi, ça m'a frappé et j'ai eu tendance à dire, en lisant ce passage, Barack Obama est le premier métis américain. Mon sujet, c'était le métis en Afrique. Mais nous sommes à l'ère de la mondialisation. Pourquoi ne pas s'inspirer de cela? Et Barack Obama va plus loin. Il dit, les différences qu'on cherche à créer entre nous, de race, etc., c'est parce que nous ne tenons pas compte d'une chose, c'est le mouvement. Les choses ne sont jamais les mêmes. Les sociétés ne sont jamais les mêmes. Elles évoluent, les pensées aussi. Et c'est pour ça que mon titre aurait pu laisser croire que j'allais faire un plaidoyer en faveur des pauvres métis. Je pense avoir décrit le plus objectivement possible d'où mes parents viennent, d'où je viens. Et malgré cela, je dis que même si lorsque je vois un métis dans la rue, j'ai envie de lui parler, nous devons être au-dessus de cela. Nous devons nous définir en Congolais, en Africain. Et ça, c'est un détail. Je pense que, sans être prophète, le moment viendra où on ne parlera plus ni de métis, ni de noir, ni de blanc. Ça sera aussi indécent que de parler du rouquin ou du blond, etc. Il y aura des Français de teint sombre, de teint basané, blanc. Il y aura des Africains blancs, noirs, café au lait. Mais ce sera avant tout le choix de vie qu'ils auront fait qui comptera. Alors, j'ai eu l'air sérieux et j'ai pas réussi à l'être. Et je voudrais terminer par un texte qui n'est ni sérieux, mais que je pense n'est pas en contradiction avec ce que je vous ai dit, et qui s'appelle Métis. Je suis né dans une ville en forme d'orange. À l'époque, ses maîtres, pour mieux empresser le jus, l'avaient coupé en deux. D'un côté la partie blanche, de l'autre la noire. À la maison, pourtant, la couleur dominante n'était ni l'une ni l'autre. Nous étions nés, comptait grand-mère, du mariage de deux gouttes dissipées qui giclèrent lors de la séparation. Une goutte de l'hémisphère noir, une goutte de l'hémisphère blanc. Allez savoir pourquoi. Le noir et le blanc ne donnèrent pas du gris,
mais du marron.
Non, me reprenait grand-mère, nous ne sommes ni gris ni marron, nous sommes métis. Une tribu sans langue ni mœurs, mais sans laquelle le monde serait privé de soleil. Marron, le mot n'existe pas en Lingala. Gris, nous le serions si nous étions des souris. Or, nous sommes une tribu née de l'amour et de la fantaisie, c'est-à-dire de la sagesse. En ce temps-là, je l'ai déjà compté ailleurs, toutes les métisses des deux rives du fleuve Congo étaient mes tantines. Toutes étaient belles, et malgré mon âge, j'étais amoureux d'elles et promettais de les épouser quand je serai grand. Un jour, en cours de récréation, à la faveur de je ne sais plus quelle dispute, un condisciple à bout d'arguments me lança avec une grimace haineuse café au lait. Était-il daltonien ou souffrait-il d'une indigence de vocabulaire? Car la couleur métisse a mille nuances. Café au lait, peut-être, mais aussi feuilles de cigare, ambre, huile de palme, chair de plantain bouillie, croûte de pain bien cuit, chocolat, pain d'épices, biscuits, caramel, miel clair, miel brun, rhum vieux, sapotille, et j'oublie mille fruits succulents de mes climats dont les noms ne vous diraient rien. Quand un métis pris par le vin ou l'esprit malin scandalisait mes tantines des deux rives, elle le traitait de mulâtre. Suprême insulte. À 20 ans, voyant que peu de gens connaissaient le vocable de métis, je me suis dit qu'il ne s'agissait pas d'un état, mais d'une vue de l'esprit. Chacun aurait une identité exclusive de tout autre. Il fallait être blanc ou noir ou ne pas être. J'ai failli sombrer dans la folie. Désormais, le monde a changé et ne cherche plus le mot « métis » dans le dictionnaire. Il en use et en abuse et proclame mille sortes de métissage. Entre les races, entre les cultures, entre les êtres humains, entre les fleurs, entre les idées, entre les musiques, entre les espèces, entre les bêtes, entre les choses. Être métis est à la mode. Qu'importe. Je n'en nourris aucune amertume et ne revendique aucun monopole. Métis de la frivolité, métis de la déchirure, métis de la synthèse, métis de tous les continents, métis de toutes les rives des 5 océans et de je ne sais combien de mers, aujourd'hui qu'ont disparu la plupart de mes tantines des deux rives du fleuve Congo, je vous adopte tous. Vous êtes mes neveux, et ma grand-mère avait raison. Nous ne sommes plus une tribu, mais le monde en métamorphose, car la communauté qui se croit pure possède en fait, dans son histoire, plusieurs métissages oubliés. Voilà. Je vous remercie. Vous avez vu à ma voix qu'elle était très fragile, mais j'ai encore un peu de force pour répondre aux questions les plus faciles. Ah, madame.
Monsieur, je vous remercie de cette conférence et ce n'est pas vraiment une question que j'ai. Je voudrais vous dire tout ce que j'ai pu ressentir d'humanisme en vous. Bon, ce n'est pas du tout un compliment. Pour moi, c'est une réalité. Je vous trouve bien optimiste, malgré tout ce que vous avez développé comme argument. Et moi, j'irai un petit peu plus loin que vous, si je m'y autorise. C'est-à-dire que, au-delà de Congolais, Rwandais ou autres, je crois qu'il faut parler d'êtres humains. Et là, je crois que nous aurons gagné. Je vous remercie.
J'ai rien à dire, merci.
Est-il vrai que dans le passé, ou peut-être encore à l'heure actuelle, il était bien vu pour un Africain noir d'épouser une métisse, antillaise ou d'une autre région du monde, parce que ça lui donnait un certain statut.
Bon, je dirais qu'il y a des cas. Il y a des cas, mais qu'il y a aussi beaucoup de métis qui préféraient épouser une noire parce que ça les remettait dans leur société. Donc il y a tous les cas possibles. Alors maintenant, peut-être que psychanalytiquement, dans tous ces cas, il y a des analyses à faire, mais j'en suis incapable. J'ai oublié ton nom, Sankalé. Eva Sankalé.
Oui, donc la conférence suivante sur le thème du métissage sera consacrée effectivement au signard de Gorée et Saint-Louis. Et elle sera donnée, enfin c'est une annonce que je fais, par mon cousin Sylvain Sankalé le 7 octobre. Et c'est peut-être ce qui explique, Monsieur Lopez, que vous n'ayez pas du tout développé le phénomène du métissage en Afrique de l'Ouest et peut-être du côté du Sénégal, le métissage assez spécifique qui s'est développé à Saint-Louis au fil des siècles. Et d'avoir, par exemple, indiqué que le contact avec entre l'Afrique et l'Europe s'est fait, qu'on me rappelle, au XVIIe siècle, je crois, au XVIe, XVIIe siècle. Et,
15e siècle au Congo.
Voilà.
Fin du 15e.
Voilà. Et donc, au Congo, oui, mais je ne suis pas persuadée qu'il y ait eu que l'histoire au Congo ait été la même que l'histoire ni à Gorée ni à Saint-Louis. Donc, je veux dire par là que j'aurais souhaité que vous abordiez également toutes ces questions de métissage spécifique un petit peu en Afrique de l'Ouest. On a parlé de Nini Mulatresse du Sénégal. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez réducteur parce que si tous les Saint-Louisiens métis ou descendants de métis ressemblaient à Nini, franchement, je pense que Saint-Louis et les métis de Saint-Louis qui à un moment donné ont joué un rôle politique très évident. Donc il y a eu des maires de la ville de Saint-Louis et ils se sont opposés aux métropolitains, attention, et ils ont voulu, si vous voulez, défendre leur identité métisse et africaine, surtout, de Saint-Louisien, spécificité aussi, parce qu'ils étaient évolués, ils avaient été à l'école, ils étaient éduqués, ils avaient un niveau culturel qui leur permettait de prendre les rênes de la ville et de légiférer en tout cas de s'occuper des affaires courantes en tant que maire. Et il y a eu jusqu'à Blaise Diagne, en fait, il y a eu une période où il y a eu des maires métis, mais je précise que ces gens-là défendaient, si vous voulez, défendaient les droits des autochtones contre la colonie, contre la métropole, je veux dire. Et ensuite, il y a eu donc une évolution, et à un moment donné, la colonisation s'est faite différemment parce que les métis ont disparu, si vous voulez. Disons que le pouvoir métis en tant que tel n'existait plus. Et en fait, tout ça, c'était intéressant quand même d'en parler, parce que même si au début, quand il y a eu des comptoirs, il y avait des comptoirs commerciaux sur la côte, il y a eu l'esclavage, hein, bien entendu. L'esclavage, ça c'est clair, net et précis. Je pense que les gens savent que qu'à Gorée, même à Saint-Louis, l'esclavage existait à l'époque, avant qu'il ne soit aboli. Mais il y a également eu des commerçants qui sont arrivés sur les côtes, donc dans ces siècles passés, et qui ont fait souche. et qui ont fait souche et qui se sont installés également et qui ont développé un certain type de relations, si vous voulez, avec les autochtones, qui n'étaient pas forcément, et ça c'était pas les colons, hein, mais qui n'étaient pas forcément basés sur la contrainte. Pas toujours, je ne dis pas que c'était quelque chose de très répandu, mais ce phénomène a existé également en Afrique de l'Ouest. Enfin, sauf si vraiment je me trompe, mais je pense que ça valait la peine de le souligner. Voilà.
Mais vous en avez très bien parlé. Moi, je connais assez mal cela, mais j'ai aucune difficulté à suivre votre raisonnement parce qu'au fond, ça ressemble à ce qui s'est passé en Angola. Les Portugais ont créé cette classe de métis assimilados et ce sont eux justement qui, allant recevoir l'éducation au Portugal, vont s'en servir pour l'indépendance de toute l'Angola contre les Portugais. Donc c'est ce que vous racontez. Au fond, ça montre que les Saint-Louisiens ont été les précurseurs de ce qui allait se produire ensuite en Afrique. Mais moi, j'ai voulu surtout, d'une part, raconter et deuxièmement, montrer que ce serait une erreur en cette période où les communautarismes sont à la mode de vouloir créer un espèce de clan métis, même si je m'amuse de ce point de vue. Je pense que sur le plan, ça ne correspond pas à ce qui est l'histoire. Et surtout, au fond, j'aurais pu dire une seule chose. Tous les métis d'Afrique ont été pris par la main. Et si vous voyez ce film dont je vous ai parlé de Sarah Bouyin, vous voyez que elle, c'est sa grand-mère qui était une métisse, mais elle s'est remariée donc avec un Burkinabé de souche, si, pour employer un vocabulaire que je n'aime pas, et que lui a adopté les enfants. C'est les enfants qui n'étaient pas les siens. En ne se disant pas « je vais avoir des problèmes avec la communauté ». Moi, c'est le message le plus important que je retiens. Et deuxième message, c'est que la vérité est point. Rowling a été battu à des élections, mais d'abord parce que son mandat arrivait à la fin, mais non pas parce qu'il était métis, mais parce que des gens n'étaient pas d'accord avec sa politique. Et Seretse Khama, l'actuel que j'ai eu, j'ai connu son père, mais lui, j'ai eu à le rencontrer une fois, je ne pensais pas qu'il deviendrait. C'est un exemple, voilà, quelqu'un élevé à la britannique, à Oxford, etc. Il rentre, il est chef tribal. Les gens ne lui disent pas « non, tu es un blanc ». Mais il le voit d'après sa vie, d'après son comportement, sa conduite, et tu peux nous diriger. Et Ellen Johnson Sirleaf, au Liberia. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Ah, il y a...
Bonjour, bonjour, monsieur Lopez.
Un intervenant redoutable.
Pourquoi ? Bonjour, monsieur Lopez. Anne Diatta Dupuis, de l'île de Gorée. Je suis descendante de la signare Anne Pépin.
Ah, excusez-moi, je voyais mal. J'ai cru que c'était Marie Scondé.
Ah, c'est un compliment. C'est un compliment.
Que je maintiens.
Merci beaucoup. J'ai été très intéressée par votre exposé qui m'a énormément apporté. C'est réellement un éclairage sur le métissage plus au sud de l'Ouest africain. Moi, j'ai fait une recherche quand j'ai su que j'étais descendante d'Anne Pépin, parce que j'imaginais absolument pas mes origines, étant donné que c'était un sujet tabou. Donc j'ai 30 ans de recherche. Et sur le métissage, en fait, il y a beaucoup à dire. Sur l'arrivée des Portugais, où les premiers bébés nés ont été tués par les Africains qui n'ont pas supporté que leurs femmes et des enfants étrange. Et une des plus anciennes familles du Sénégal, métisse de Portugais, c'est la famille Jouga, que nous pouvons saluer, dont il y a encore des descendants. Je voulais vous dire que c'est un petit point que je vous apporte. L'administration coloniale, bien avant l'administration coloniale, l'administration de Colbert, par le Code noir, avait codifié le fait que les officiers et les gens de la cour qui venaient à Gorée, donc Gorée était une administration pour l'esclavage, et les femmes noires avaient été demandées par les Européens comme épouses, et les Africains, donc les Lébous, étant une peuplade de la côte sénégalaise, et les Sérères, les Lébous et les Sérères qui sont des populations qui arrivent du Bengale, qui ont donc fait un très très long chemin, ce sont les gens de la mer, qui sont passés par l'Égypte, qui ont habité les bordures du Nil, qui ont ensuite longé les côtes de la Méditerranée pour arriver vers la Mauritanie, la Négricie, le Técrour, et qui ont fait partie des anciens royaumes du Ghana et du Mali. Donc, ils ont traversé le fleuve Casamance, pour remonter jusqu'aux côtes de Dakar, et qui ont refusé que leur fille ne soit pas épousée. Donc, le mariage à la mode du pays, dont Sylvain Sankalé a fait une très belle thèse, a existé. Et le mariage à la mode du pays se faisait le soir. Les hommes venaient, donc la cour de France était parfaitement bien informée, demandaient. Ils se présentaient à chaque famille, demandaient la main de la femme qu'ils allaient épouser, qui était la femme de leur prédécesseur. Et ils devaient prendre, c'était compris dans le règlement, la case, puisqu'elles habitaient dans des cases, les enfants, la mère, élever les enfants selon la religion catholique et les codes de l'éducation française. Et vous verrez dans le livre de Xavier Ricou, que je vous recommande, « Les trésors de l'iconographie », du Sénégal colonial, vous verrez toutes les gravures d'époque qui se dispensent de commentaires, avec les petits-enfants qui étaient habillés comme à la cour de France et les mères qui étaient habillées comme des princesses par leurs époux. Donc nous avons eu un premier métissage qui a été appelé mixage, en fait il y a eu plusieurs termes qui ont été inventés par Adanson, qui était le naturaliste du roi Louis XV, et qui est donc a vécu à Gorée, et qui a fait le Tolibourg, le jardin du roi, à Gorée, et qui s'est énormément révolté contre les signards, qu'il appelait des gueuses, dans la mesure où elles avaient la priorité sur le ravitaillement qui arrivait pour les officiers, mais aussi pour la troupe qui était sur Gorée, qui est un rocher, qui étaient quand même très très mal desservis, étant donné qu'ils étaient entièrement dépendants des Lébous et des Sérères de la petite côte, qui, eux, dirigeaient parfaitement l'île comme ils le voulaient, parce qu'ils pouvaient priver la population, qu'elle soit anglaise, française, hollandaise ou portugaise, de nourriture. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est la deuxième partie après la colonisation, la partie coloniale après la libération des esclaves. Donc il y a eu en France, il y a eu un manque de conscience pendant assez longtemps de la couleur de la peau, puisque le roi Louis XIV lui-même, la reine Marie-Thérèse, a eu un enfant noir qui s'appelait la Mauresse de Morée. Et tous les princes de France ont été la saluer pendant toute sa vie. Elle a été abbesse. Et elle a été respectée toute sa vie. Elle a été reconnue par le roi Louis XIV. Le valet du roi, le valet de la reine, a été éliminé. C'était un valet noir, on a supposé. Bon, enfin, la reine pensait qu'elle avait pris trop de café. Mais enfin, le valet a été éliminé. Et le roi a reconnu la petite Mauresse, voilà. Donc ça fait partie de l'histoire de France. C'est une histoire qui m'a énormément intéressée parce que depuis que j'ai fait cette recherche, je pense que nous sommes tous parents, tous différents. Bien avant que Marie-Thérèse d'Espagne vienne épouser Louis XIV, les Arabes avaient envahi la France et les Noirs avaient été aussi en esclavage en Espagne. Donc des métissages, il devait y en avoir déjà depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Donc la reine elle-même devait être un peu métissée, parce que quand vous voyez l'image, la gravure de la Mauresse, vous tombez des nues. Elle est noire. Elle est noire. Alors là, vous ne comprenez plus. Si vous faites un peu de génétique, on se pose des questions quand même. D'autre part, pour ce qui est du fait que de la couleur. Alors, le problème de la couleur a été très, très, très marqué sur les colonies américaines et antillaises. Et je vous recommande le livre d'un anthropologue, Jean-Luc Bognol, Les maléfices de la couleur, qui parle très, très bien des quarterons, des quinterons et de toutes les couleurs qu'on a pu donner aux métis à cette époque-là et qui ont pu marquer encore la période coloniale. Et qui, malheureusement, ont frappé les esprits quand, après la libération des esclaves, les Antillais sont venus dans nos côtes et ont apporté leur mentalité. Donc, il y a eu à ce moment-là un regard différent des métis par rapport à leur famille noire, et d'où vient le problème de Nini, qui ne supportait pas sa mère noire. Et d'où vient le fait que les métis ont après essayé de se blanchir. Bon, actuellement, Dieu merci, nous avons passé tous ces caps et nous sommes tous parents, tous différents, et je trouve que cette exposition du Musée de l'Homme, tous parents, tous différents, est une belle leçon, de même que l'histoire de l'orange que vous venez de nous raconter avec sa finalité qui est absolument délicieuse. Merci beaucoup, monsieur.
Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'admiration. Et mes félicitations pour vos recherches. Je vais vous demander quelques références. Eh bien, je vous remercie. Et...